France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour ouvrir cette semaine qui va nous faire traverser une partie de la Seine-et-Marne, c'est à Chelles que nous nous arrêtons pour une micro-brasserie qui fait mousser, comme vous allez l'entendre, d'autres projets autour des circuits courts. Ensuite, nous serons en Haute-Loire pour vous présenter une innovation héritée, comme l'art de brasser des temps anciens, à savoir une couveuse culinaire en laine de mouton baptisée Les Cocottes.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Nicolas Hédet, bonjour.
Bonjour.
On est parti pour guincher ensemble alors.
Ben c'est ça, hein. On va parler un petit peu de bière et puis de tout ce qui va autour quoi.
C'est une histoire de famille avec votre compagne Aurélie. Vous avez créé cette microbrasserie de la guinche à Chelles, qui est avenue de la Résistance face au marché de Chelles, qui s'imprègne de l'histoire locale.
Exactement. Pour nous, qui sommes des enfants du cru, on a toujours vécu dans cette banlieue. Et c'est vrai qu'auparavant, les bords de Marne représentaient une histoire populaire avec les Nuggets, avec les Apaches, un vrai, véritable lieu de vie qui réunissait banlieusards et parisiens.
Comment se lance-t-on dans la création d'une microbrasserie? Il y a quand même des connaissances, un savoir technique.
Il faut des connaissances techniques, il faut un brin de folie, parce que pour se lancer, c'est se dire, bah allez, on se lance dans le grand bain. Et puis en fait, bah, on a commencé comme la plupart des brasseurs, des brasseuses, en brassant à la maison, dans sa cuisine, en suivant des recettes. Les premiers essais étaient complètement foirés, mais on était contents de les avoir faits. Et puis de fil en aiguille, on s'est professionnalisé. C'est vrai que voilà, il y a des stages qui ont été faits, des formations. Et puis, il y a énormément d'auto-formations en lien avec ses compères brasseurs ou même brasseurs amateurs pour échanger sur les techniques et les matières premières.
Je ne sais plus le nombre de micro-brasseries qu'on a atteint en France. Je crois qu'on est au-delà des 2000.
Eh ben oui, voilà, le cap des 2000 a été franchi là dernièrement, hein, ouais. Même avec les confinements et les restrictions sanitaires liées au Covid. La dynamique est toujours en cours sur le territoire français, donc c'est une très très bonne chose.
Vous inventez, par exemple, ça n'existait pas, c'est une nouvelle saveur, c'est une bière au miel.
Alors, la bière au miel, je dirais, ça a toujours existé dans le sens où les premières bières qui étaient brassées en Égypte incorporaient notamment du miel dedans, mais ça permet de développer des nouveaux goûts et puis au-delà de ça, de développer des partenariats entre producteurs locaux qui permet de créer une synergie entre acteurs sur un territoire. Quoi. C'est ça qui est intéressant pour valoriser le travail des artisans locaux.
Ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous avez créé une dynamique au point de proposer à des habitants de Chelles de cultiver du houblon.
Exactement. C'est vrai qu'avant même de s'installer, on a contacté nos proches, on a contacté la MAP, des acteurs locaux pour pouvoir développer l'opération Houblon-la-Ville. Cette opération, elle est assez simple. Elle consiste à adopter un pied de houblon, de le faire planter dans son jardin ou sur son balcon, de l'entretenir et au moment de la récolte, de nous rapporter les houblons, les cônes, et puis nous, on s'occupe de brasser avec une bière locale. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'instant, la Belle Abeille, avec du miel de Chelles, chez les abbesses, et puis des houblons locaux, et puis après on remet des bouteilles aux participants. Ouais. C'est une opération qui a pour nous beaucoup de sens parce que ça permet de mobiliser une centaine de Chellois, de créer du lien social, de réfléchir aussi autour des pratiques de permaculture, de changer les pratiques. C'est vrai qu'on a créé un forum d'échange autour de cette opération, et puis certains ont arrêté d'utiliser des produits chimiques pour traiter à tout va, et en échangeant, en disant, bah tiens, je rencontre cette problématique dans mon jardin, qu'est-ce que je peux faire d'autres que mettre du produit chimique, et c'est ça qui est intéressant. Quoi.
Vous inventez un nouveau concept, Nicolas, c'est de la bière participative et collaborative.
J'irais même coopérative. Si on a lancé cette brasserie, pour nous, c'est aussi de créer un lieu. Un lieu qui est un espace de rencontre entre des habitants, un lieu pour créer du lien social. C'est vrai qu'en banlieue, souvent c'est le métro boulot dodo, les gens ne sortent pas dans leur ville, préfèrent sortir quand ils sortent à Paris, ou sinon des fois c'est vrai que c'est un peu éloigné des centres urbains et donc du coup reste chez soi et il y a une logique d'individualisme qui s'est développée en banlieue. Et créer un lieu autour de la bière, qui est un produit populaire, accessible, ça permet de créer des vraies dynamiques sur le territoire. Voilà, nous, c'est ça qui est important.
Puis il n'y a pas qu'un lieu, parce qu'il y a des événements. Vous avez créé le festival, la Guinche Fest, et une association 3C, c'est-à-dire Chelles, en circuit court, là où on réunit les savoir-faire, les producteurs, les commerçants, les associations et même les universitaires.
Exactement. Exactement. C'est vrai que voilà, il y a 2 ans, on a organisé ce festival sur les bords de Marne, qui réunit à peu près 1500 personnes. On a fédéré autour de cette initiative des acteurs locaux, des producteurs locaux, des commerçants qui mettent en valeur le savoir-faire du secteur, des associations également. On a décloisonné les petites sphères qui évoluaient chacun dans son secteur. Ça a rencontré un véritable succès et on s'est dit à l'issue de ça, transformons l'essai, pérennisons cette dynamique-là autour d'une association. Donc on a pris le temps d'élaborer la charte de manière collégiale avec du temps. Et aujourd'hui, chez Lance-Circuit Court, on groupe une 15aine de structures, commerçants, producteurs locaux et associations pour développer des nouveaux modes de production, des nouveaux modes de consommation. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien dans cette période, on espère post-Covid, on espère qu'on va y arriver. Mais voilà, il y a 2 mouvements. Il y a le mouvement qui va vers les géants de la vente en ligne comme Amazon, et il y a aussi cette notion de relocalisation, de développement des circuits courts, de développement de l'emploi en bas de chez soi et des savoir-faire au niveau local. C'est essentiel. Donc ces 2 mouvements-là sont complètement antagonistes et nous au niveau local, on va essayer de développer au maximum cette alternative parce que c'est ce projet de société-là qu'on a envie de défendre.
Je me répète, j'ai envie d'aller guincher, HL. Laguinche.net pour l'adresse. Merci Nicolas.
Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et bonne continuation alors à tous les auditeurs et les auditrices.
France Inter, carnet de campagne.
Merci à Christelle qui nous envoie un long courrier qui pose de très bonnes questions sur les ouvertures des épiceries ou magasins d'alimentation coopératifs et collaboratifs. Il y en a de plus en plus. Elle, entre autres, parle de COP IN ou COP 1, comme on veut. Ça s'écrit COP plus loin, IN, I-N. Mais on aime bien dire COP 1 à Melun. La partie est bien engagée, mais pas toujours gagnée, comme elle l'explique dans son courrier. COP 1 a ouvert à Melun en février 2021, privilégiant le vrac, la proximité. Le seul souci aujourd'hui, c'est qu'il y a d'abord un manque évident de coopérateurs, de nouveaux coopérateurs. Les habitudes sont bien ancrées. Les grands magasins bio attirent toujours des clients par leur positionnement au cœur des zones commerciales, alors que ces géants ne sont pas toujours coopératifs, loin de là. Et puis le comité pilotage devrait accorder plus de place à la communication et puis se pose la question de salarier des personnes pour lever la barrière du volontariat. Il y a des exemples de coopératives qui ont des salariés et qui continuent le bénévolat, des coopérateurs actifs. Et effectivement, la communication est essentielle. En attendant, rien ne vous empêche de rejoindre la COP de Melun, c'est COP1-melun.fr. Ninon Voutet, bonjour.
Bonjour, Philippe Bertrand.
On vous rejoint chez vous. Alors, chez vous, c'est quoi? C'est un labo Icocotte aujourd'hui?
Alors, chez moi, pour l'instant, c'est encore chez moi, dans mon salon, dans mon garage, un petit peu où j'ai de la place. Et un peu chez les autres aussi.
C'est une drôle d'idée que vous avez eue. J'avais présenté rapidement en novembre l'année dernière une technique que vous avez découverte en Afrique du Sud qui permet, qui ressemble à une sorte de couffin en laine qui permet de garder les plats au chaud pendant de très nombreuses heures.
Voilà, et même tellement au chaud que ça finit de cuire en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'avait impressionné quand je l'avais découvert là-bas.
Et quand même, quelle histoire, vous venez du nucléaire?
C'est ça, formation en nucléaire et puis après les enfants et puis les voyages et envie de changer radicalement de vie pour que ça ait plus de sens pour moi en fait.
Comment vous avez mis au point cette couveuse culinaire très particulière?
Et ben en fait je me suis basée sur ce que j'avais découvert en Afrique où elles avaient donc des paniers dans lesquels elles mettaient de la laine et elles ont beaucoup de plats mijotés là-bas et donc elles lançaient ça sur le bois et après elles venaient le mettre dedans. Et ça finissait de cuire comme ça, donc moi j'en avais une que j'avais petit à petit un petit peu bidouillée. Puis je me suis renseignée et j'ai découvert que c'était des techniques qui existaient et j'ai regardé un petit peu tout ce qui existait pour arriver à développer quelque chose qu'on pouvait promener, qui était naturel.
Vous avez trouvé des producteurs de laine?
Oui, ça n'a pas été facile. Clairement, dans mon projet, ça a été difficile parce que j'ai eu l'enjeu de vouloir rester sur du local, mais du vraiment local. Et trouver les quantités de laine qu'il me faut en vraiment local, c'est pas toujours simple.
Ouais, vous êtes à Issingeau.
Alors moi, je suis à Lyon, mais j'ai grandi à Issingeau, ouais, et je travaille pas mal par là-bas, ouais.
Oui. Alors, vous avez trouvé les ateliers de la Bruyère à Saugues qui transforment la laine. Et puis, donc, je disais Issingeau parce que vous faites appel aussi à un atelier d'insertion.
Voilà, À plusieurs désormais, parce que ben, comme la production a beaucoup augmenté et que c'est des populations qu'il faut quand même ménager, aujourd'hui j'ai un autre atelier d'insertion qui m'aide. Et là, sur Lyon, un groupe de couturières très éthiques aussi, qui d'habitude font des habits recyclés, et qui là me donne un coup de main pour les écocottes en ce moment. Ouais.
Si je sors un plat du four, il est brûlant. Comment l'écocotte, cette couveuse culinaire, peut résister à la chaleur?
Eh ben, en fait, vous portez à ébullition, donc vous montez à 100 degrés, puis vous placez à l'intérieur. Là, j'ai fait les, parce que mon côté scientifique a fait que forcément j'ai fait des tests, des courbes de température. Donc là, vous descendez assez rapidement autour de 95 degrés, et là, on va rester entre 95 et 80 degrés pendant 6 à 8 heures. Et le lin que j'utilise supporte très bien d'être au contact d'une casserole à 100 degrés. Et comme vous chauffez plus, et ben ça ne brûle pas en fait.
Et vous avez créé différents formats ?
Alors j'ai deux formats, j'ai la grande taille et j'ai développé une plus petite taille. Ça c'était parce que mon frère vit en van et il m'a dit « t'es bien gentil avec ta grande couveuse, mais c'est trop grand pour moi ». Donc j'ai développé un plus petit modèle pour les gens qui sont tout seuls ou qui sont réduits en espace. Et actuellement, je suis en train de décliner la gamme en utilisant du feutre de laine pour faire d'autres produits.
Ce qui est génial, on dit, tiens, on va inviter des amis à dîner ou à déjeuner. J'ai un plat qui mijote, mais moi, j'aimerais passer un peu de temps avec mes amis. Donc, on met le plat dans cette couveuse. Et vous dites, la température de l'ordre de 80 degrés est préservée jusqu'à 7 heures.
Voilà, moi, en fait, quand j'ai des amis, mon mari adore inviter les gens le dimanche midi. Moi, j'aime plus faire la grasse mat ou profiter des enfants le dimanche matin. Donc, en fait, moi, je prépare le plat la veille au soir. Je le mets dans la couveuse et puis on fait notre vie. Et parfois même, il m'arrive d'arriver après les invités quand c'est déjà l'apéro qui est lancé. Et puis, on passe à table quand on a le temps.
Si on va sur ecocotte.fr, on trouve les lieux de vente?
Alors, c'est principalement par Internet en ce moment. Mais il y a quelques magasins qui sont en train de devenir partenaires. On trouve des recettes, on trouve des infos.
Et puis, vous travaillez sur un autre produit?
Eh bien, en fait, en allant chercher ma laine la dernière fois, j'ai découvert un super feutre de laine très épais que j'utilise pour faire des pochettes isothermes à bouteilles. L'idée étant aussi de remplacer les sacs à glaçons ou les choses comme ça, en fait. Sortez la bouteille du frigo, vous mettez dedans, et puis après, vous l'emmenez où vous voulez, et ça reste froid, chaud, tempéré, comme vous voulez, en fait, ça garde la température.
Tiens donc, et vous l'avez testé auprès de restaurateurs?
Voilà, j'ai plusieurs restaurateurs qui commencent à être intéressés, mais ça prend beaucoup moins de place que les seaux à glace, et ils aiment bien l'idée, donc c'est quelque chose qui est en train de bien se développer en ce moment.
Ouais, on aime bien le nom, en plus de ça, ecocotte, qui vous permet donc de cuire à basse température, de maintenir au chaud des plats pendant plusieurs heures, comme vous l'avez compris. Et en plus, ça, c'est très écologique.
Ah ouais, 80% d'économie d'énergie en ce moment, c'est pas rien.
Hein. Oui. Ecocotte.fr donc pour l'adresse. Merci Ninon.
Merci à vous.
Si vous habitez la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme on va traverser en février et en mars, grand nombre de ces départements, n'hésitez pas à nous écrire dès maintenant à Chailly-en-Bière, en Seine-et-Marne, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros.